Alors, vous pouvez tourner dans la parole de Dieu, mais on va se promener ce matin pour la lecture des Écritures. On va aller dans trois passages différents. Alors que Serge est en train de venir s'installer en avant, on est dans cette série du mois de janvier où on regarde l'année 2015 ensemble et on veut se placer dans une disposition de cœur où on va être attentif à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans nos vies. Et là, je parle peut-être jargon, c'est tout ça, vous me suivez pas. Mais la parole de Dieu nous enseigne que celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas seul. Un chrétien, en début d'année, ne prend pas des résolutions. On peut le faire. Mais un chrétien apprend à écouter ce que Dieu est en train de travailler, ce que Dieu lui montre dans la parole, et choisit de collaborer avec l'Esprit-Saint, d'obéir à l'Esprit-Saint, d'obéir à la parole, puis dire, « Oui, Seigneur, je vais être attentif à ça. Tu es en train d'éclairer ça dans ma vie. Quotidiennement, je vois que tu ramènes ça. » Et donc, l'exhortation, l'encouragement qu'on vous a lancé en début d'année, c'est d'aller dans la prière pendant tout le mois de janvier et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de travailler? Je vous ai lancé un défi aussi un petit peu plus, qui demande plus de guts encore, c'est de consulter non seulement votre Dieu dans cet endroit secret où il vous parle de manière mystérieuse, mais de manière très tangible aussi en consultant des gens autour de vous. Et peut-être même des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais qui connaissent un petit peu votre foi, puis vous leur posez la question, écoute, je ne sais pas ce que tu connais de Jésus, ce que tu ne connais pas de Jésus, mais imagine la meilleure personne au monde, puis elle n'y arrive même pas à la cheville. Puis moi, quelque part, je sais que c'est mon modèle, j'aimerais lui ressembler de plus en plus. Qu'est-ce que je pourrais travailler cette année dans ma vie? Qu'est-ce que tu vois qui serait à travailler, où tu dis, ah, ça, si ça changeait, en tout cas, ton Jésus parfait, il me semble que tu ressemblerais plus. Un beau défi, hein? Je sais qu'il y en a qui osent le faire, c'est vraiment le fun. Alors, c'est ça qu'on veut faire ensemble, puis on veut travailler personnellement, mais on veut travailler aussi en Église. En Église, on va avoir une vision devant nous pour poursuivre ça comme assemblée. Alors, on va écouter les trois passages des Écritures ce matin, et puis on va aller voir comme Église maintenant. Comment est-ce qu'on peut cheminer pour que toute l'Assemblée soit en train de poursuivre Christ? On va aller dans un mot de prière ensemble. Seigneur Jésus, vouloir être comme toi, ça peut sembler tellement orgueilleux. Parce qu'il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Si j'affirmais que vraiment je suis comme toi, je serais en train tellement de te diminuer comme si Dieu n'était qu'un homme. Mais ta parole nous révèle que tu es le Dieu incarné, tu es le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, qui est devenu homme. Par compassion, par amour, pour venir vers nous et pour t'offrir, Seigneur Jésus, en sacrifice sur cette croix pour nos péchés. Et cette croix dit, déclare, affirme que par nous-mêmes, pour nous, c'est impossible de devenir comme toi, Seigneur. Cette croix nous dit que nous avons besoin d'un pardon, d'un sacrifice parfait qui nous apporte le pardon à celui qui croit en toi, Seigneur. Et Seigneur, cette année 2015 qui est devant nous, on veut s'y engager en fixant les yeux sur toi, non pas sur nous, sur ta grâce, ton amour, ce que toi, Seigneur, tu as accompli pour nous et ce que tu veux accomplir en nous maintenant, Seigneur. Je prie d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs à entendre ta parole, Seigneur. Parce que quotidiennement, j'ai besoin, Seigneur, que tu disposes mon cœur à ta sainte parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Écoutons la parole de Dieu.
Lecture de la parole de Dieu, Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 11 à 18. Jean, chapitre 14, versets 11 à 18. Alors que le Seigneur était avec ses disciples, il leur dit, « Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le deuxième texte, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Après sa mort et sa résurrection, le Seigneur apparut aux disciples. Il leur dit aussi. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enfin, le dernier passage de la parole, ce matin, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, versets 8 et 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 9. Au moment où le Seigneur Jésus allait être enlevé dans le ciel, il dit ses dernières paroles à ses disciples. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Amen.
Amen. Merci Serge. Alors ce matin, cette année, on veut commencer l'année 2015 avec, je le résume comme ça, une prière et une vision. À travers les deux dernières semaines, on s'est concentré sur cette prière, une prière personnelle, très simple, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit en nous. À la fin de l'année 2015, on espère et on demande à Dieu, chacun d'entre nous personnellement, d'être un tout petit peu plus comme Jésus. Alors, s'il veut faire des grands changements, il fera des grands changements. Mais on veut être à l'écoute et voir là où l'Esprit est en train de travailler. Et donc, ça, c'est l'invitation, le défi qu'on vous a lancé dans les deux dernières semaines, c'est de prier pendant tout le mois de janvier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis de ce temps-ci? Comment est-ce que tu me parles? Lorsque j'ai l'occasion de jaser avec des gens, seul à seul, puis on a cette conversation-là, 90% du temps, d'accord? Les gens savent déjà ce que Dieu est en train de travailler. Parce qu'on est lent à comprendre. Et souvent, ça fait longtemps que Dieu nous le dit. Et donc, souvent, on le sait, c'est à travers des gens autour de nous qui reflètent quelque chose en nous, qui dévoilent notre caractère, des commentaires, des situations, qui nous exposent la parole de Dieu qu'on lit, puis t'as l'impression que Dieu est toujours en train de souligner avec un marqueur jaune les mêmes sirops de passage qui disent toujours les mêmes affaires. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. On continue à prier. Il reste encore une semaine et demie pour pouvoir résumer, identifier deux domaines où Dieu désire travailler dans votre vie. J'avais une conversation cette semaine avec quelqu'un, puis l'Esprit est libre de faire ce qu'il veut dans nos vies. Dieu travaille, comme le disait un enseignant dernièrement, Dieu travaille dans 1000 domaines dans nos vies, puis on a juste conscience de un ou deux domaines. Mais là où j'ai compris ce que Dieu est en train de travailler, c'est mon attitude qui est déterminante. Je cherche par la grâce de Dieu à expérimenter quotidiennement la plénitude de l'Esprit. Et un élément déterminant, c'est cette disposition de mon cœur à demeurer à l'écoute, même lorsque ce qu'il me dit, ça ne me plaît peut-être pas, ou ça m'amène à des endroits où ça va travailler. Donc une prière. Une prière. Seigneur, on veut être tout simplement plus comme Jésus. À la fin de l'année 2015. Par ta grâce. Une vision. Une vision parce qu'on veut avancer en Église ensemble. Alors, ce qu'on fait, c'est que ce matin et dimanche prochain, on va parler davantage de toute l'Assemblée. Individuellement, personnellement, on cherche tous à devenir plus comme Jésus-Christ, mais tout ça va produire un mouvement aussi au milieu de l'Assemblée. On s'en va dans une direction ensemble. Il y a un an de ça, on vous a présenté une vision pour l'Église et puis on avait un énoncé de vision. On l'a répété à plusieurs reprises dans l'année. Nous voulons être une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Vous pourriez dire centrée sur Jésus, d'accord? Mais comprendre tout ce qu'il fait dans l'Église, chez le croyant. Donc, on veut être une Église centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain. On a fait une série sur ça au printemps, et puis à travers ça, on vous avait présenté 10 valeurs, 10 domaines où qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce bel énoncé-là, là? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église de l'espoir? Comme pasteur, le conseil des anciens, les pasteurs, moi-même, Dieu m'a pas appelé à être pasteur de n'importe quelle assemblée. Vous comprenez? Dieu m'a appelé à être pasteur de cette assemblée-ci. Et chaque Église a une personnalité, a des forces, a des faiblesses, a des domaines à travailler. Et si vous avez connu d'autres assemblées, vous le savez, chaque Église a une culture propre, une personnalité. Et Dieu m'a appelé à m'adresser à cette assemblée-ci. Et donc, pendant des mois, on a prié, on a discuté aussi avec les anciens pour dire qu'est-ce que Dieu veut travailler dans notre Église pour que cette Église soit plus mature en Jésus-Christ. Et donc, on vous a présenté cet énoncé de vision-là avec 10 valeurs. Je ne vais pas tous les ramener ce matin. Ça ferait pas mal d'infos, puis je risque plus de vous mêler. Ce qu'on veut, là où on veut se concentrer cette année, c'est sur deux de ces valeurs-là. D'accord? Et la semaine dernière, on vous a distribué un petit carton, plus comme Jésus, avec quelque chose à l'endos. Si vous l'avez avec vous, sortez-le, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas reçu la semaine dernière, vous aimeriez l'avoir, juste lever la main. Les placeurs vont s'avancer, vont vous en donner un. On va vous demander de glisser ça dans votre Bible, sur votre table de nuit, sur votre table de chevet, pour le garder à vue toute l'année. Donc, d'un côté, il y avait cette prière-là, plus comme Jésus. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler dans ma vie cette année pour que je grandisse davantage à l'image de Christ? Et je veux simplement être attentif à l'écoute. » De l'autre côté de ce carton-là, voici ce qui est écrit. « Je rêve de 500 disciples engagés à faire des disciples. » Je rêve de 500 disciples engagés à faire des disciples. C'est concret, ça. Savez-vous combien est-ce qu'on est ici ce matin? 350 environ. À peu près 350. Je rêve de 500 disciples engagés à faire des disciples. Et les deux valeurs sur lesquelles on veut travailler particulièrement cette année, une Église qui s'investit à fond pour faire des disciples. Je vais revenir sur les petites phrases. Et puis, une Église qui accueille le délaissé et le malheureux. Cette semaine, on parle de la première, une Église qui s'investit à fond pour faire des disciples. Et la semaine prochaine, on va parler d'une Église qui accueille le délaissé, le malheureux. Et le conseil a discuté, puis j'ai prié, puis on a jasé ensemble, puis on s'est dit, si on grandit dans ces deux domaines-là, ça va nous permettre d'avancer pour réaliser cette belle vision-là, d'être une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, une famille qui marche tout près de Dieu, qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain, en travaillant sur ces deux valeurs-là bien précises. Et c'est ça qu'on veut faire cette année ensemble. Deux citations pour vous d'un enseignant que j'aime beaucoup qui s'appelle David Platt, dans son livre « Follow Me ». Pas David Platt, suivez pas David Platt, suivez Jésus. « Follow Me », voici ce qu'il écrit. « La volonté de Dieu dans le monde et pour notre vie », parlant des chrétiens, est de répandre son évangile, sa grâce et sa gloire parmi tous les peuples de la terre. Au lieu de chercher à connaître sa volonté pour nos vies, posons-nous plutôt la question suivante. De quelle manière puis-je aligner ma vie sur la volonté de Dieu qui désire que je devienne son témoin dans le monde? Deuxième citation, parlant encore de ce mandat-là d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il dit, ce n'est pas seulement une question pour les missionnaires extraordinaires, comme les Baskounan pour qui on a prié la semaine dernière pour Antonio et Hélène. Non, c'est pour tous les chrétiens ordinaires aussi. Ce matin, on va voir ensemble que nous sommes tous appelés. Du moment qu'on est chrétien, je dirais ça comme ça, du moment qu'on est un chrétien en santé, on est tous appelés à nous engager, à faire des disciples, en présentant Christ avec des mots, faire connaître la personne de Jésus, parler de lui et en le représentant par nos vies. La mission que Christ a confiée à son Église, on veut que ça devienne notre rêve. Souvent, lorsqu'on parle lorsqu'on lit Matthieu 28, 19 et 20, puis on parle de la grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples, tout ça, on est focusé sur ça, puis là, on dit, OK, il y a une grosse mission qui est incroyable, puis ça va prendre peut-être des experts pour faire ça. Des fois, on en parle comme de la mission ou la grande commission. Mais lorsque je lis attentivement les évangiles, d'une part, il y a un commandement, il y a une directive. Dieu dit, faites ça. Donc, c'est une mission. Il nous donne la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais en même temps, lorsqu'on lit attentivement les évangiles, on pourrait le présenter autrement aussi. On peut aussi dire que c'est la vision que Jésus avait de ce que son Église deviendrait. Est-ce que vous me suivez? D'une part, un commandement, allez en mission, faites ceci. D'autre part, Jésus, sans l'ombre d'un doute, voit l'avenir de son Église et dit, c'est ça que l'Église va faire. Alors, je vous rappelle les passages que Serge nous a lus. Dans Jean 14, 11 à 18, soyez attentifs au début du passage. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Là, Jésus dit quelque chose d'absolument énorme. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » « Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes même que les miennes. » C'est vraiment intriguant comme passage parce que même après le départ de Jésus, c'est vrai, il y a eu des miracles. Lorsqu'on pense à des œuvres plus grandes, on se dit toujours « waouh, c'est les miracles ». C'est de ça qu'il est en train de parler. Puis effectivement, lorsque tu lis le livre des Actes, c'est le début de l'histoire de l'Église. Puis Dieu est encore là en train d'attester qu'il y a quelque chose de divin, de miraculé qui se produit parce que l'Esprit est là avec les apôtres et puis il y a des miracles encore qui se font à plusieurs reprises. Et donc, notre accent est peut-être d'aller vers ça. Mais en même temps, même dans le livre des Actes, j'ai un problème. Si c'est essentiellement ça que Jésus est en train de dire, j'ai un problème. Parce qu'il n'y a aucun des apôtres à notre connaissance qui a fait beaucoup plus de miracles que Jésus. Le plus grand miracle auquel on assiste dans le livre des Actes et auquel on a assisté dans les premiers siècles, le plus grand miracle qu'il y a eu, ce sont les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers de personnes qui ont cru en Jésus-Christ pour leur salut. Et ça, c'est le plus grand miracle. Un empire, l'Empire romain, a été complètement bouleversé par ce miracle-là. Parce que des chrétiens, simplement, ont pris cette vision, cette mission que Jésus avait donnée, d'aller faire de toutes les nations des disciples au prix de leur vie. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, avant que l'Église devienne reconnue par l'État, les chrétiens étaient haïs, étaient détestés, puis peut-être pour sa plus grande perte, l'Église est devenue reconnue par l'État et l'empereur a déclaré être chrétien. C'est peut-être la pire chose qui est arrivée à l'Église, parce que ça s'est institutionnalisé ensuite de ça et il n'y avait pas cette même ferveur-là individuelle, cette même intégrité-là individuelle. C'est devenu payant d'être chrétien. Bon poste pour être reconnu, accepté. Mais le miracle est évident. Et Luc s'applique au début du livre des Actes, à travers tout le livre des Actes, de démontrer que cette parole de Jésus, au début du livre des Actes, Actes 1, 8 et 9, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout le livre des Actes est une démonstration du début de l'accomplissement de ça. Alors, c'est pour ça que je dis, ce mandat que Jésus donne à l'Église dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ce n'est pas simplement une mission. C'est une vision. C'est Jésus qui est en train de voir ce qu'il va faire. Et c'est lui qui bâtit cette Église-là. La vérité, l'histoire de l'humanité, et là pour en témoigner, on a vu beaucoup de cette vision-là se réaliser. Et des sociétés ont été bouleversées. Le témoignage des chrétiens s'est répandu sur la terre et on est encore engagé dans cette grande vision-là. C'est vraiment important de saisir la nuance entre les deux. Parce que dans le fond, tout ce qu'on veut faire comme Église, c'est qu'on veut entrer dans la vision de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que je veux faire comme chrétien, non pas premièrement de voir un devoir, un mandat qui est donné à l'Église, mais c'est ce privilège-là d'entrer dans cette vision-là, d'emboîter le pas avec Christ, de me joindre à lui dans cette vision-là. Parce que c'est ça qu'il y a sur le cœur de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que David Platt va dire, bien, oui, personnellement, je peux chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Dans quoi est-ce que tu veux que je travaille? C'est quoi ma vocation? Où est-ce que tu veux que j'aille vivre, Seigneur? Quel époux est-ce que je devrais marier? Quelle épouse je devrais marier? Donc, il y a plein de directions très personnelles où on cherche la direction de Dieu. C'est bien de faire ça. Mais en même temps, l'espèce de direction générale sur ma vie, les grands principes qui guident ma vie sont les mêmes pour tous les chrétiens. Parce qu'à partir du moment où je suis chrétien, j'appartiens à Christ. Il est venu, il a conquis mon cœur. J'ai épousé ce sauveur merveilleux personnellement. Il a saisi mon cœur. Et ce que je veux, c'est le suivre. Je veux le laisser me conduire. Et ce qu'il a sur son cœur, c'est que cet évangile libérateur qui est venu transformer ma vie soit annoncé à toutes les nations de la terre. Et que chaque personne qui a reçu ce message-là devienne tout simplement par sa bouche, en annonçant l'Évangile, en parlant de Jésus-Christ, et par sa vie en représentant Christ, un élément de propagation de l'Évangile, afin que Dieu fasse de toutes les nations des disciples. Et c'est pour ça que sur le petit carton, ce que vous avez, c'est « Voici notre rêve ». Voici notre rêve. On est régulièrement le dimanche matin, peut-être quelque chose comme ça, 350 adultes ici à l'Église. Et notre rêve et notre prière, c'est que Dieu nous fasse grandir et que dans sa grâce, dans quelques années d'ici, nous soyons 500 disciples. Pas simplement 500 personnes qui viennent ici le dimanche matin, mais 500 disciples engagés à faire des disciples. Et on va voir ça ensemble ce matin. Et ça va être ma prière toute l'année 2015 et les années qui viennent et celles du conseil. Et dans le fond, notre prière, c'est que ce rêve-là qui est sur mon cœur, c'est pour ça qu'on l'a dit, on l'a énoncé comme ça, je rêve, d'ici la fin de l'année 2015, chaque personne qui assiste régulièrement à cette assemblée, qui dans son cœur se sait, se reconnaît, disciple de Jésus-Christ lui-même, puisse dire, c'est pas le rêve des anciens, cette affaire-là. C'est mon rêve à moi. C'est mon rêve à moi que dans quelques années, cette assemblée soit constituée de 500 disciples qui sont engagés à faire des disciples de Jésus-Christ. Amen?
Amen.
Parce qu'on veut entrer dans la vision de Jésus. Parce qu'on veut aller là où le cœur de Christ se trouve. Et on veut devenir simplement comme lui. C'est là qu'est notre santé spirituelle. Notre prière cette année, c'est que la vision de Jésus devienne notre rêve à nous aussi. Et que ce ne soit pas simplement un mandat, une mission qu'il nous donne, mais que ça devienne une passion pour nous aussi. Et qu'on soit là engagé dans la prière, engagé à poursuivre, à faire des disciples. Voyez-vous, dans les deux dernières semaines, on a parlé d'être plus comme Jésus. C'est drôle, le christianisme, des fois vous allez écouter des pasteurs qui enseignent, puis ils vont tous mettre l'accent sur un domaine. Ils vont dire, tu deviens chrétien parce que Dieu veut ton bonheur. Puis là, vous allez entendre d'autres enseignants qui vont dire, ben non, c'est Dieu le centre de l'univers. On est là pour sa gloire. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour lui. Donc, de toujours amener ça à dire, oui, mais je suis là pour mon bonheur, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas vrai. C'est vrai que c'est vrai. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui dit, moi, je suis venu à Jésus juste pour une raison super égoïste. Je n'avais pas le goût de griller pour l'éternité. Moi, je trouve ça sage. Je trouve ça vraiment intelligent comme décision. C'est assez égoïste, mais ça me va. Puis c'est sûr, c'est bien aussi quand quelqu'un me dit, non, non, mais moi, c'est juste parce que Dieu est beau. Il est extraordinaire, puis je capotais déjà sur Dieu, mais j'ai compris qu'il fallait que je suive son fils pour vraiment, vraiment le glorifier. Et donc, dans les deux dernières semaines, on a parlé d'être plus comme Jésus. Il y a une dimension qui est personnelle dans ça. Quand mon cœur est dans cette disposition-là où je me lève le matin puis je dis, Seigneur, ce qui me ferait le plus plaisir aujourd'hui, c'est de me coucher ce soir puis dire, j'ai vu dans ma disposition, dans mon cœur, que j'étais rempli de l'esprit aujourd'hui, j'étais à l'écoute. Quand des fois, j'allais te dire une niaiserie ou j'avais dit une niaiserie, ben je revenais à toi, je voulais réparer ça. J'étais disponible, j'étais là, j'étais connecté avec toi, Seigneur, aujourd'hui. Parce que ça m'apporte de la joie. Ça me fait du bien. Je sais que c'est là que je suis heureux. Et c'est correct d'avoir cette dimension-là, dans cette poursuite-là d'être comme Jésus. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre à ça. Pourquoi est-ce qu'on veut être plus comme Jésus? Est-ce que c'est simplement pour nous? Est-ce que c'est simplement pour moi? Ou est-ce que tu désires être plus comme Jésus pour que tes enfants voient en toi Jésus-Christ? Pour que ta famille puissent connaître personnellement Jésus-Christ, pour que les gens autour de toi puissent voir quelque chose de différent et entendre quelque chose de différent, entendre l'évangile de Jésus-Christ. Le titre du message ce matin, c'est « Imitateur observé ». Dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La question que je posais aux enfants tout à l'heure, c'est simplement pour illustrer le fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on saisit dans la vie, on le saisit en observant. Et le mot grec qui est là dans Matthieu 28, 19 et 20, cette expression-là, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », c'est « Enseignez-leur à obéir continuellement ». C'est ça l'idée qui est là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire qu'on va annoncer Jésus, hein? Disciples de Jésus. Il faut que je leur parle de Jésus, que je leur annonce l'Évangile, qu'ils comprennent que tout ça, c'est un salut par grâce, puis on devient chrétien par grâce, puis on croit en lui. Puis là, Jésus dit, OK, mais il faut que tu leur enseignes à être des disciples. Comment est-ce que tu vas leur enseigner ça? Tu vas leur enseigner à obéir continuellement. À obéir continuellement. Ça ne s'enseigne pas simplement avec un tableau, cette affaire-là. C'est pas vrai. Et donc, ça s'enseigne avec des mots, avec du temps passé dans la parole de Dieu, et ça s'enseigne par une vie qui est une illustration. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on veut présenter Christ avec nos mots, présenter Jésus, l'Évangile, et on veut le représenter avec nos vies. On veut le représenter avec nos vies. Je ne sais pas si vous êtes mal à l'aise avec cette idée que votre vie est censée être sous observation constamment. Votre vie est censée être un reflet de Jésus-Christ. En fait, clairement dans la parole, un chrétien devrait aller aussi loin que de dire « imitez-moi ». méchant prétentieux, hein? Imitez-moi, comme j'imite moi-même Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit à plusieurs reprises, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Ça sous-entend que là où j'y ressemble pas, c'est peut-être pas le bout que tu veux imiter, entre autres. Mais ça sous-entend définitivement qu'il croit être un modèle et qu'il n'a pas peur que sa vie soit sous examen. Il élargit ça. Dans Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards, encore une fois, observez, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Voyez-vous, il y a cet effet multiplicateur qui est là. Parce que notre mission, ce n'est pas simplement d'annoncer l'Évangile. C'est de refléter le caractère, la personne de Christ à travers nos vies. Parce que les gens qui vont croire dans ce message, qui vont être bouleversés par ce message-là, ont la mission ensuite d'apprendre à obéir continuellement. Ce matin, j'ai commencé ma journée. Bon, là, je vous amène encore une fois là, dans ma petite vie privée. Là. Moi, ça commence à genoux. Okay? Quand je vais dans la prière, c'est à genoux. Je ne sais pas, c'est dans cette position-là que je suis plus focusé sur Dieu. On dirait que j'arrête de faire n'importe quoi, puis... Souvent, je m'étends en plus. Fait que là, à un moment donné, je vous amènerai dans mon salon. Je suis étendu en pleine face. Je ne suis pas prostré, mais je ne sais pas, une concentration. Si vous le faites, les pieds dans les airs, vous le faites comme vous voulez. Mais les premières choses que j'ai dites à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi pour y arriver. Par mes propres forces, je te ressemble pas. Bon, peut-être que vous êtes déçus, là, le pasteur ne devrait pas dire qu'il ne ressemble pas à Jésus parce que tu sais, après tant d'années, il faudrait que tu ressembles. Je ressemble un petit peu, c'est pour ça que je me fais pousser une barbe, des choses comme ça. Mais vous comprenez, c'est un processus. La parole parle de sanctification, d'être transformé à l'image de Christ. Boy! C'est vraiment par la foi que je crois qu'il savait quel contrat il signait en me prenant dans son équipe. Parce que moi, je ne me serais pas pris, vous comprenez? Et donc, c'est un long processus, et c'est vrai pour chaque personne qui va croire en Jésus. C'est un long processus, et ça s'apprend en lisant la parole, en confessant que je n'y suis pas, en demandant au Seigneur de me faire grandir encore aujourd'hui, et en faisant ça avec des gens qui sont des modèles pour nous. En observant des gens autour de nous. J'ai eu ce privilège-là dès le début de ma vie chrétienne, que les chrétiens les plus matures autour de moi comprenaient qu'il fallait qu'ils m'ouvrent leur vie. Il fallait que je puisse les observer. Et lorsqu'ils se plantaient, parce qu'ils se plantaient, je me souviens mon beau-père, qui vient me voir et qui dit, « Yannick, je ne comprenais pas encore tout ça. » En fait, il le faisait avant qu'on soit chrétien. Ça, c'était bizarre. Le beau-père qui venait nous voir et qui nous disait, « Je veux vous demander pardon, les gars. » De quoi tu parles? Demander pardon. Je veux vous demander pardon, je n'ai pas été un modèle. J'ai compris quand je suis devenu chrétien que c'est comme ça qu'on est un modèle. C'est en étant humble, puis c'est en s'exposant, puis c'est en grandissant, puis c'est en s'observant les uns les autres. Et donc, on est appelé comme Église. Si on veut être engagé ensemble à faire des disciples, on est appelé à accepter d'être des imitateurs observés. Parce que les gens ont besoin d'observer dans ma vie. Comment est-ce que je poursuis Christ malgré toute ma faiblesse, malgré toutes mes confessions? Les gens ont besoin d'observer dans ma vie comment je continue et comment Dieu me fait grandir à travers ça. Ça demande d'être assez humble pour dire que je ne suis pas rendu. En même temps, ça enlève tellement de pression de faire ça. Si vous le saviez, là. Je passe mon temps à confesser mes problèmes, mes péchés devant vous. Vous n'attendez pas à ce que je sois parfait. Mais ça me demande de prendre cette décision-là. Je choisis d'exposer ma vie en invitant des gens à entrer dans ma vie. Parce que je veux devenir une inspiration à suivre Jésus-Christ. Et donc, j'apprends à présenter Christ avec mes mots et à le représenter à travers ma vie. Et les deux vont main dans la main. Si vous êtes à l'Église depuis quelques années, vous entendez régulièrement parler de coaching, de formation de disciples. Il y a un côté pervers, il y a un effet pervers à ça. Je pense que dans l'Église, ici, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, il y a deux choses pour un chrétien. Il y a l'évangélisation puis la formation de disciples. Est-ce que c'est ça? Il y a l'évangélisation puis il y a la formation de disciples. Dans le mandat, dans la mission que Jésus donne ici dans Matthieu 28, il y a une espèce de continuum. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer. Et où l'évangélisation, puis où la formation de disciples dans ça, là? Voyez-vous, il y a une espèce de continuité dans ça. Et c'est pour ça que si on veut être des chrétiens, une église qui est engagée à faire des disciples, il va y avoir toujours ces deux aspects-là qui vont être présents. Je présente Christ avec mes mots, j'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Et je le représente à travers ma vie aussi. Donc, lorsque je vais jaser avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ, je sais qu'à tout moment, le message que j'annonce va peut-être être ce qui va lui parler aujourd'hui, mais en même temps, le geste que je vais poser est peut-être ce qui va l'interpeller aujourd'hui, qui va l'attirer, qui va l'amener à s'interroger. Hier, j'ai passé du temps, hier matin, avec un monsieur qui se définit comme chrétien, puis en même temps, il y a comme un bout de chemin à faire dans tout ça. Et je quittais cette rencontre-là d'une heure et demie, puis je savais que j'avais dit des choses. J'avais posé des gestes qui l'interpellaient, qui le remettaient en question sur qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien. Et pourtant, dans cette occasion-là, j'ai pas eu l'opportunité de présenter l'Évangile, d'accord? D'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, il faut le voir comme une espèce de continuité. En québécois, c'est simple, on a une expression, si vous n'êtes pas familier avec cette expression-là, c'est quoi? Il faut que mes bottines suivent mes babines. C'est juste ça qu'on est en train de dire. C'est un principe chrétien. Il faut que mes bottines suivent mes babines. Autrement, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Pire que ça. Ça se peut que ça fasse fuir les gens parce qu'ils vont vous définir comme des religieux. Vous avez un langage, vous avez un discours, mais je la connais, ta vie. Nos enfants sont experts pour nous montrer quand nous sommes religieux. Parce qu'ils voient les endroits où nos bottines ne suivent pas nos babines. Être engagé comme Église à faire des disciples en 2015, c'est une affaire de cœur, premièrement. Et ce matin, c'est ça que je veux déposer avec vous. Plusieurs d'entre vous entendez cette vision-là. 500 disciples qui sont engagés à faire des disciples. Et là, vous avez des catégories dans votre esprit. Vous dites, c'est les pasteurs qui font ça, c'est ceux qui savent enseigner, c'est l'extroverti qui annonce l'Évangile à tous les coins de rue parce qu'il est comme ça. Puis, je vous ai souvent dit, je ne rentre pas vraiment dans toutes ces catégories-là. Ici, moi, je suis avec la famille. Hein? Je suis avec vous, je suis à l'aise. C'est comme, moi, j'aurais un sofa ici, je prendrais un café, ça ne changerait rien. Ça fait 18 ans que je suis avec ma famille lorsque je monte sur l'estrade ici. Amenez-moi à l'arrêt d'autobus, 500 pieds par là. Laissez venir un étranger, puis regardez. Vous allez voir, je suis en prière. Oh, je dis, Seigneur, j'aimerais tellement ça y parler de toi, mais je vais lui donner un traité, on va m'en aller. Je ne suis pas extraverti dans ce contexte-là, c'est comme... Puis je vous ai souvent donné l'illustration, j'ai un chum, Stéphane Gagné, c'est un fou. On s'en va au restaurant, quelques mois, je sais que je l'ai raconté, je ne me souviens pas, je l'ai raconté un dimanche matin, on s'en va au restaurant ensemble. Il y a une madame qui est là-bas, à l'autre table, elle est en train de lire un livre. Le livre, ça dit « Maigrir, Dieu et les femmes ». Fait que là, il voit ça, je l'ai vu encore hier chez Renaud Bré. Fait que c'est là-bas. Puis là, Steph, il est là, puis il dit « Les gars, c'est vraiment bizarre ce qu'il est en train de lire. » Je suis avec François, puis non, jase, puis Stéphane, classique. Lorsqu'on arrive au dessert, il dit « Excusez les gars, faut que j'aille la voir, faut qu'elle m'explique c'est quoi ce livre-là, je suis intrigué. On l'a perdu pour une demi-heure. » Je dis, moi, c'est certain, je pense qu'il y a un serveur qui me sort avec un coup de pied dans le derrière. Tu peux pas faire ça, aller déranger une cliente comme ça. Il est arrivé, « Madame, je suis vraiment intrigué par votre livre. Moi, je suis pasteur, puis ça m'intrigue. Est-ce que je peux m'asseoir? J'aimerais ça en jaser un petit peu avec vous. » Est-ce que tu peux t'asseoir? T'es fou! Et passé là une demi-heure! Ils se sont rendus toutes les deux à la caisse pour payer en même temps. « Hey, salut, bonne journée. » La madame était super contente. Belle conversation. « Hey, donnez-moi une injection de son ADN. Je comprends pas comment ça marche, cette affaire-là. » Si on est une église qui est engagée à faire des disciples, ça ne vous demande pas de devenir toute une gang d'extrovertis qui savent comment faire cette magie-là. Moi, c'est pas dans mes gènes, cette patente-là. Si la personne se met à brailler, ah là, je sais quoi dire. Si la personne est en morceaux, je suis dans mon élément. Si la personne est bien dans sa peau, pff, je prie. Mais laissez-moi vous donner des exemples concrets, vous les avez dans l'inséré. OK? Et ce matin, là, je lance une balle, je pars une boule qui commence à rouler, qui va rouler toute l'année 2015, où on veut vous engager. Certains d'entre vous vous dites, oublie ça Yannick, ça fait déjà une demi-heure que je t'entends plus, c'est quand que ça finit, j'ai hâte de chanter Jésus. OK? C'est pas mon appel. Moi, mon appel, c'est de passer la motte. Dieu pourrait se servir de ça, tu pourrais être vraiment surpris. Exemple pour ouvrir nos horizons. Comment est-ce que je peux être engagé? Mais premièrement, c'est dans la prière. C'est simplement que je ne peux pas fermer mes yeux sur la misère de l'humanité sans Christ. Et donc, prier régulièrement pour que Dieu réalise cette vision-là. C'est clair que c'est sur le cœur de Dieu. Et donc, si vous prenez simplement la décision de mettre ça régulièrement dans la prière, vous êtes engagé à faire des disciples. Invitez chez moi régulièrement des chrétiens et des gens qui ne le sont pas dans le but de représenter et d'annoncer Christ. Changez mon rythme de vie pour inviter régulièrement, pratiquer l'hospitalité avec des chrétiens, avec des gens qui ne le sont pas, puis les exposer à ma vie avec cette intention de refléter la personne de Christ, d'annoncer Jésus-Christ, comme Dieu permettra, comme Dieu dirigera. Invitez une personne à lire un livre de la Bible avec moi, dans le but de partager ensemble, d'échanger. Chercher des opportunités pour rendre service dans mon quartier ou dans un organisme dans le but de refléter Christ et de l'annoncer. Voyez-vous, il y a cette intentionnalité-là, mais qui peut se faire à travers des choses super simples. Laissez Jésus vous conduire dans les endroits les plus surprenants en 2015. Alors, si en début d'année 2015, vous dites, « Seigneur, je me vois pas là, mais fais ce que tu veux. » Wow! Et moi, je suis content. Quand un pasteur entend ça, je peux-tu vous dire qu'il est content? Juste simplement dire, « OK, Seigneur, tu vas me conduire dans les endroits les plus surprenants. Tu feras ce que tu veux, c'est cool avec moi. » Me joindre à un groupe de quartier pour inviter des gens et m'investir dans la vie d'autres chrétiens. Encore une fois, on veut décloisonner cette espèce d'affaire-là, d'annoncer l'évangile, évangélisation, coaching, formation de disciples, une espèce de continuum là-dedans, où constamment je veux annoncer à présenter Christ avec mes mots puis le représenter avec ma vie. Demander à une personne plus mature de prendre du temps cette année avec moi pour me coacher dans le but de le faire à mon tour, m'investir dans la vie d'autres chrétiens dans le but de les voir grandir sérieusement dans leur foi. Avec mon groupe de quartier, chercher notre champ missionnaire à nous. Puis on fonce, on y va. On va faire des gaffes, c'est pas grave. Suivre la formation en counseling biblique pour aider des gens à grandir à la ressemblance de Christ dans des endroits difficiles. Du counseling pour un chrétien, c'est ça. C'est de la formation de disciples. On aide quelqu'un à devenir un disciple dans des endroits difficiles dans sa vie. Et c'est vrai que des fois, il faut apprendre nous-mêmes, être instruits, coacher nous-mêmes pour pouvoir faire ça. Choisir quelques personnes pour qui je vais prier cette année, prendre de leurs nouvelles, les encourager dans leur cheminement spirituel. Garder chaque jour les yeux ouverts et le cœur disponible pour annoncer Christ avec mes mots et le représenter avec ma vie. Vivre en Église, en prenant conscience, on est 352 ici ce matin, 360 ce matin. Vivre en Église en prenant conscience que nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres à connaître davantage Jésus-Christ et à lui ressembler. Dans nos rapports les uns avec les autres, on est tous là pour ça. Aller prendre un café et lire un livre chrétien avec un chrétien, ou non, dans le but de connaître Christ davantage ensemble. Inviter un frère, une sœur de l'Église ou quelqu'un qui n'est pas chrétien à venir avec moi lorsque je suis en train de servir ou j'aide des gens ou je vais faire une visite ou simplement lui ouvrir ma vie de famille. Puis on peut juste décider en famille que, OK, des fois on invite du monde le vendredi soir, mais le mardi soir, notre table est ouverte. C'est pas comme... Sois pas sur ton 31, il n'y aura pas de bouteille de vin ouverte, on fait juste comme c'est notre souper, on a une heure et demie, mais ma maison est ouverte, fait que ça tente-tu de venir souper chez nous mardi, puis juste être avec ma famille. En 2015, comme Église, on veut s'engager à faire des disciples. Et chacun d'entre nous, avec nos dons, nos talents, nos forces, nos faiblesses, Christ nous appelle à trouver notre chemin là-dedans, trouver notre place dans ça. Ça commence par une disposition de cœur, une ouverture d'esprit, et puis tranquillement, Dieu va vous montrer comment vous pouvez être engagé. Parce qu'un chrétien en santé, c'est un chrétien qui est engagé dans la vision de Jésus-Christ. Alors, simplement pour être concret ce matin, je vais vous donner une illustration pas mal concrète. À compter du mois de février, régulièrement, vous allez entendre quelque chose qui va ressembler à peu près à ça comme mot de bienvenue, d'accord? Au début de la matinée, vous savez qu'on fait la bienvenue? Vous allez entendre quelque chose comme ça. Bienvenue à l'Église de l'Espoir, on est content que vous soyez avec nous. Tout le monde ici dans la salle, on est tous là pour connaître personnellement Jésus puis grandir à son image. Alors, si c'est la première fois que tu viens ici, voici ce qu'on aimerait te dire. Tout le monde ici est disponible pour t'accompagner. Après le service, si tu as des questions, approche n'importe qui ici. Donne-lui une petite tape sur l'épaule et dis, « Excuse, es-tu de l'Église ici? » Parce que j'ai des questions puis j'aimerais ça juste qu'on m'éclaire. Parce qu'on est tous là pour ça.
Si quelqu'un pourrait m'aider. S'il vous plaît, madame.
Non, excusez, je suis trop pressée.
OK. Excuse-moi.
T'as pas fait ça?
Pelin! Je pensais pas qu'il était au téléphone.
Aïe, ah, il était malade. C'est fort.
Wow. OK.
Non, ça se peut pas, ça, voyons.
Ça avait l'air important. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, j'aurais une petite question pour toi, s'il te plaît.
Excusez-moi, monsieur. Non, monsieur, excusez-moi, je suis pas à la comité d'accueil. Hein. Je peux pas vraiment vous aider. Je suis juste là pour le micro, en fait. OK.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Je me présente, mon nom c'est Miguel.
Mamadou Barry.
Enchanté. Écoutez, je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est un plaisir de que vous soyez avec nous. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec nous ce matin?
Effectivement, c'est la première fois que je viens ici cette semaine. J'aurais une question pour vous.
Oui, allez-y.
Dans votre dépliant, on voit ici que c'est marqué « Bouffe pour tous » le mercredi soir. Qu'est-ce que c'est, ça?
Ah, donc vous avez pris le temps de lire notre petit bulletin, c'est super. Écoutez, est-ce que vous avez quelques minutes? Ça me fait plaisir de vous donner quelques informations.
Tout à fait.
Excellent. Écoutez, c'est pas compliqué, bouffe pour tous, voici ce que c'est.
Ouais.
Écoutez, on est conscient qu'il y a du monde qui voudront peut-être plus revenir à l'église à compter du 1er février. OK? Vous avez deux semaines pour vous repentir. C'est bon? On va grandir ensemble comme église dans ça. On va grandir ensemble comme église dans ça tranquillement. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est simplement de prendre la décision de demander à Dieu de nous conduire comme assemblée à cet endroit-là où on va voir ensemble, on va définir ensemble un chrétien en santé comme quelqu'un qui est engagé à faire des disciples. Et Dieu va nous amener dans des endroits surprenants. Il va nous faire sortir de nos sentiers battus, il va nous faire sortir de notre zone de confort. Mais rêvez un instant avec moi, Et imaginez que 350 personnes dans un an d'ici, en fait, 300, 400 dans un an d'ici, c'est ça qui va se passer, ont un cœur qui bat avec cette disponibilité-là. Un cœur qui bat avec ce fardeau, ce désir sur notre cœur, d'être disponible et engagé à faire des disciples selon nos dons, selon nos talents, là où on est rendu. Une église qui, pendant 12 mois, a prié en disant, « Seigneur, viens nous montrer, viens me montrer à moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est avec mon petit groupe de quartier qu'on va faire ça? Est-ce que je vais aller visiter des gens? Est-ce que tu m'appelles tout simplement à aller servir des personnes? Est-ce que moi-même, tu veux que je grandisse cette année parce que je voudrais me reproduire dans d'autres personnes? Est-ce que tu veux que j'ouvre ma maison un petit peu plus? » Mais Dieu, dans sa grâce, nous conduit là. On va passer à la louange ensemble. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que pour moi, c'est pas, je m'engage pas dans ça avec des doutes puis avec des peurs. Puis je vous l'ai dit la semaine dernière, pour moi, je suis pas là pour vous motiver à faire quelque chose. Mon rôle à moi, c'est pas de vous motiver. Mon rôle à moi, c'est de vous prêcher la parole de Dieu. Et cette mission-là, c'est la vision que Christ a pour son Église. C'est la prophétie qu'il a prononcée sur son Église. C'est que l'Esprit de Dieu allait faire ça. Chacun selon nos dons, chacun selon notre talent. Et dans quelques années, en fait, ce que je crois plus vite qu'on le pense, dans quelques années, ça ne sera pas assez 500 disciples engagés. La vision va être beaucoup trop petite. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, lorsque j'ai cru en toi, j'ai accepté que tu allais me conduire dans des endroits vraiment surprenants. Seigneur, encore ce matin, je confessais que je ne suis pas capable par moi-même d'être plus comme toi. J'ai besoin que toi, tu viennes opérer cette œuvre-là en moi, Seigneur. Encore ce matin, c'est par la confession et l'adoration que j'ai commencé, mais j'avais vraiment rien pour me vanter, Seigneur, tu le sais. Mais je sais, Seigneur, que la vie d'une église, la santé d'une église, c'est lorsque notre cœur bat au rythme de ton cœur, Seigneur. Et donc, ce rêve-là que nous avons sur notre cœur, Seigneur, est entièrement aligné avec ta vision pour l'église. Viens nous enseigner comme assemblée cette année, tout au long de l'année 2015, à se voir les uns les autres comme des disciples. En formation, des imitateurs, mais aide-nous à ouvrir nos cœurs pour que nous acceptions d'être observés aussi. Aide-nous à ouvrir nos vies pour que nous invitions des gens à entrer dans nos vies, Seigneur, à nous regarder. Enseigne-nous, Seigneur, en 2015, à présenter Jésus avec nos mots régulièrement et à le représenter par nos vies, Seigneur. Conduis-nous à cet endroit où, comme Église, fièrement, Seigneur, nous allons pouvoir dire, toute l'Église qui est ici est là pour t'aider à connaître personnellement Jésus-Christ et à lui ressembler de plus en plus.